Nous avons remporté le second tour de l'élection présidentielle avec le soutien de notre peuple. Je tiens à remercier tous nos concitoyens qui ont manifesté leur volonté d'avenir, tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants, en votant aux élections.
Istanbul, 28 mai 2023. Debout sur le toit d'un bus, garé devant son domicile, Recep Tayyip Erdogan regarde la foule déchaînée à ses pieds. Sa voix est éraillée, il vient de chanter, il porte un long manteau. À ses côtés, sa femme, Emine, le visage enchâssé dans un turban blanc. Le ciel est gris, presque le crépuscule. Recep Tayyip Erdogan savoure son sacre. Plus de 52% des voix pour lui, un peu moins de 48% pour son rival, Kemal Kılıçdaroğlu. Quatre mois plus tôt, le tremblement de terre qui a détruit le sud-est du pays a ébranlé la puissance d'Erdogan. Le bilan du séisme est apocalyptique, 50 000 morts officiellement au moins, mais les chiffres qui circulent auprès des hôpitaux sont bien plus vertigineux. On parle de plus de 100 000 victimes. Les immeubles, écroulés comme des châteaux de cartes, ont mis à jour l'ampleur de la corruption au sein de la frénésie bâtisseuse des années Erdogan, se jouant des risques sismiques, trichant sur les normes, rognant sur la sécurité. Erdogan, en 20 ans de pouvoir, ne semble jamais avoir été aussi fragilisé au seuil d'une élection. Pour la première fois réunie, l'opposition a mis face à lui un homme, Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans, le chef du CHP. Le parti kémaliste. Il est porté par la Table des Six, cette coalition inédite et hétéroclite qui mêle libéraux, extrême droite, laïcs, pro-kurdes, tous unis dans un seul objectif, se débarrasser d'Erdogan. Et cette fois, à travers la Turquie, ils sont très très nombreux à y croire. Je m'appelle Claude Guibal. Je suis grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Erdogan, la tentation de l'Empire, épisode 6, le troisième sacre.
Türk milletiyle değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var.
Tayyip Erdoğan n'est pas un démocrate de cœur.
C'est un grand homme politique, grand homme d'État, c'est évident.
L'élection a été fixée le 14 mai. La campagne a été éprouvante. En quelques mois, l'opposition a réussi à transformer l'image de Kemal Kılıçdaroğlu, cacique du CHP, en grand-père sympa et rassembleur de la Turquie. Tous les soirs, depuis sa cuisine, il envoie des vidéos où il promet aux Turcs le retour à l'apaisement, à la démocratie, à un pays unis dans sa diversité, prenant l'union lorsqu'en face, en double inversé, Erdogan joue la polarisation. Ce dernier a pour lui, à son service, toute la puissance de l'État. Les institutions, les médias, les finances publiques, les promesses d'emploi, de reconstruction. Le 14 mai, au soir du premier tour, les espoirs sont immenses dans le camp de l'opposition. Mais c'est la douche froide. Au premier tour, Erdogan n'a certes pas la majorité absolue, mais la coalition qu'il a montée avec l'extrême droite remporte la majorité au Parlement lors des législatives qui se tiennent au même moment. Le second tour a lieu 15 jours plus tard. L'entre-deux tours est épouvantable. Accusations, diffamations, manipulation de vidéos, Kemal Kılıçdaroğlu est éreinté par la machine de guerre électorale de l'AKP. On tire à boulet rouge sur sa confession alévi, une branche mystique de l'islam turc où hommes et femmes prient ensemble et où la consommation d'alcool fait partie du rite. Son alliance avec le HDP, le parti pro-kurde, lui vaut l'étiquette de terroriste. Sur la défensive, il cherche à récupérer les voix de l'extrême droite, promettant de renvoyer chez eux au plus vite les 3,5 millions de réfugiés syriens présents sur le sol turc. La campagne est nauséabonde, le pays coupé en deux. Dimanche 28 mai, je suis à Istanbul. Dans les bureaux de vote, l'air est électrique. Puis vient le soir et les premiers klaxons.
À l'entrée de Kasım Pasha, le quartier où est né Recep Tayyip Erdogan. Les résultats, ils ne sont pas encore officiels, mais la Turquie sait qu'elle elle est rentrée dans une nouvelle ère Erdogan, 5 ans de plus. Devant moi, des femmes en foulard noir, abaya noir, sortent d'une voiture. Elles ont des drapeaux turcs.
J'ai arrêté une de ces femmes qui portait autour du front un bandeau à la gloire d'Erdogan. Pour elle, cette élection, c'est le futur de la Turquie qui s'éclaire, maintenant que son candidat est assuré de continuer le travail.
L'avenir de la Turquie maintenant, c'est l'économie. On va pouvoir se concentrer là-dessus. On a découvert du gaz, du pétrole. On construit déjà nos propres voitures. On fabrique des drones armés. On peut produire tout ce dont on a besoin. Ceux qui étaient au pouvoir, avant Erdogan, ils n'ont rien fait de tout ça. C'est lui qui a réalisé ça.
Et puis, accroché sur les voitures, là, juste devant moi, il y a ces jeunes qui ont le bras tendu avec deux doigts en l'air. C'est le symbole des loups gris. Ce sont ces milices d'extrême droite, xénophobes, qui sont affiliés au MHP, le parti avec lequel Erdogan a fait une coalition pour cette élection.
Si on est heureux ce soir, c'est parce que maintenant, on a Kasım Pasha, le lieu qui a vu naître et grandir notre président Tayyip Erdogan.
Être nationaliste, ça veut dire que nous, on ne s'incline devant personne, on reste toujours debout. Et le seul dirigeant qui se comporte comme cela, c'est Erdogan. Le monde entier a intérêt d'accepter.
En fait, ce qu'on voit, ce sont à la fois les conservateurs religieux voilés et puis aussi toute cette Turquie ultranationaliste, l'extrême droite qui est apparue comme le faiseur de roi de cette élection.
La nuit est tombée sur Istanbul, dans une liesse étourdissante. Partout, c'est de gestes vertigineux. Le signe des groupuscules des loups gris, et puis ses mains levées, paumes en avant, 4 doigts en l'air, pouces repliés. Ce geste, popularisé par Recep Tayyip Erdogan, il vient d'Égypte. C'est le symbole du massacre de la place Rabia Ladawiya. C'était au Caire. Entre le 14 et le 16 août 2013, plus d'un millier de partisans du président islamiste Mohamed Morsi tués dans un assaut des forces de police après le coup d'état militaire qu'il a renversé. Jusqu'au matin, les pétards, les feux d'artifice ont résonné. Au loin, on entendait encore rire les loups. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Sevil, ma fixeuse, traductrice, assistante. Porte d'entrée vers la Turquie.
Sevil ? Sevil, ça va ? Calme, je t'embrasse.
Ça me fait du bien de te revoir.
Je suis ravie de te revoir. Ça va ?
Ça va ?
Ça va bien.
Comment va la Turquie ?
Tu vas voir, plus ou moins démoralisé. Plus ou moins.
Et nous sommes partis à travers Istanbul.
En fait, avec Sevil, je voulais qu'on retourne à Kasım Pasha, le quartier de naissance de Erdogan, parce que j'aimerais revoir Murat. Murat, vous vous souvenez peut-être de lui. On l'a entendu dans le premier épisode de ce podcast. Son père était originaire de Rize, comme la famille d'Erdogan, et il connaissait la famille d'Erdogan. Tout le monde ici se connaît, en fait, dans ce quartier très, très populaire d'Istanbul. Murat, il avait... son petit étal de thé, quelque part entre deux boutiques de grossistes de matériel de restauration.
c'est là-bas, je crois. C'est après la pâtisserie.
Avec Séville, on s'est assise dans la courette, exactement à la même table que celle où nous étions 4 mois plus tôt, lorsque nous avions rencontré Mourad.
Oui, le voilà. Voilà Mourad qui arrive.
Merci beaucoup.
Mourad est en train de me préparer la table. Hop, cendrier.
Je voulais le remercier de son hospitalité la dernière fois. Geçen sefer bizi çok güzel ağırladınız. Çaylarınız zaten çok güzeldi. Ev sahipliğiniz de onun için tekrar teşekkür ediyoruz.
Her daim.
Je lui ai demandé s'il était satisfait du résultat de l'élection.
Recep Tayyip, c'est le chef, notre chef. Sa réélection, ça a fait trembler le monde, même en Europe. Tout le monde. Le futur, il est ici, avec Tayyip. C'est vraiment le numéro un.
Mourad m'a expliqué que pour lui, Kemal Kılıçdaroğlu, le rival d'Erdogan, n'était qu'un jouet aux mains des étrangers. Qu'il ait été surnommé le Gandhi turc pendant la campagne, le faisait rire. D'un geste, il m'a fait signe de m'approcher. Il avait quelque chose, disait-il, à me montrer.
Alors, Mourad, il me montre sur son téléphone Recep Tayyip Erdogan avec une photo et en dessous, il y a marqué Evet, ça c'est oui. Il met sa main en repliant le pouce et les 4 doigts en l'air. Donc, ça, c'est le sigle Rabia. L'autre geste que vous faites de la main, donc vous faites. Donc, vous mettez. Alors, ok, c'est l'alliance. Ok, en fait, la Mourad, il est en train de faire des gestes. Donc, il fait le premier geste, c'est 4 doigts de la main en l'air. Donc, ça, c'est le sigle Rabia qui est popularisé par les supporters de l'AKP. Le deuxième geste qu'il fait, il mime le profil d'un loup avec ses doigts et
Exactement.
Deux doigts levés. Et ensuite, il joint les deux mains ensemble. L'alliance des loups. Vous, vous êtes un loup ?
Les deux.
Mourad hoche la tête. Il est les deux, dit-il. L'alliance de Rabia, le camp islamiste, et les loups, sa famille, les ultranationalistes. Alors, j'ai voulu lui demander qu'est-ce que ça voulait dire être nationaliste en Turquie.
Les valeurs du nationalisme turc, c'est un caractère particulier. La droiture, l'honnêteté, la morale, le respect. C'est en cela que notre nation turque est différente. Et c'est ça qui nous différencie des Européens. Nous, nous avons le sens de la fraternité. Nous n'avons pas d'animosité. Nous sommes tous unis sous le même drapeau. Que ce soit celui qui vient de la mer Noire ou celui qui est kurde. Ce sont tous des êtres humains.
Est-ce qu'il y a des ennemis de la nation turque ?
Oui, et en premier lieu, les pays européens. Bon, c'est vrai qu'on a aussi des traîtres chez nous. De l'animosité chez nous aussi. Mais en premier, vraiment, ce sont les pays européens. Ils sont les ennemis de la Turquie depuis de longues années. Pourquoi veux-tu le savoir ? Parce que pendant très longtemps, ils nous ont dirigés. Mais à partir du moment où le Raïs, notre chef, est devenu Premier ministre, puis président, il a coupé le cordon. Leur but, se débarrasser de Tayyip. Nous, on le connaît très bien. Il y a une amitié, des liens familiaux depuis nos parents. Et je peux te dire, un dirigeant comme lui, on ne pourra pas en avoir un autre. C'est le dernier. C'est une couronne posée sur notre tête, et pour 5 ans encore. Recep Tayyip, c'est un homme, un vrai.
Et puis, Mourad s'est interrompu et s'est enfoncé dans la courette. Au-dessus d'un réchaud, il a attrapé une petite cafetière en cuivre.
C'est le café turc. Tu connais le café turc ?
Alors là, on est au-dessus du réchaud. Et Mourad, il est en train de touiller le café. Le café turc. Il mime le fait que c'est un café revigorant.
En quittant Kasım Pasha, le fief de Recep Tayyip Erdogan, j'ai voulu entendre l'autre Turquie. Celle qui avait cru à l'espoir d'un changement, Alors avec Sevil, nous avons pris la direction d'un des quartiers plus modernes d'Istanbul. J'étais curieuse d'entendre la réaction d'Ali Bayramoğlu, cet éditorialiste que vous avez entendu dans le deuxième épisode. Un de ces libéraux, ces gens de gauche qui ont un temps été proches d'Erdogan à ses débuts, avant de déchanter et prendre leur distance.
Bonjour Ali, ça va ?
Comment vas-tu ?
Comment ça va ?
Très bien, bien, passe-moi.
Merci.
C'est vrai que c'est la fin d'une recherche de l'espoir. Bon, enfin, c'est ce que j'ai senti, hein, pour tout le monde. Comme mon pays était envahi par l'ennemi, parce qu'il y a deux Turquies différentes, deux systèmes de valeurs différents. On partage la même langue, même histoire, mais pas les mêmes valeurs. Et j'ai toujours essayé de faire un pont entre deux différentes Turquies dans ma vie journalistique et intellectuelle, mais cette fois-ci, et Erdogan, il est allé tellement loin dans un système pro-fasciste que, voilà, donc la déception est grande. Voilà. Pour la première fois, l'opposition était si forte, une opposition qui était réunie malgré ses fragilités. Eh bien, ça n'a pas marché. La différence est tellement petite. 2 millions de votes, c'est que des votes des Turcs qui habitent aux étrangers. Hein. Ils votent presque tous pour M. Erdogan.
J'ai eu envie de lui demander si, au-delà de la déception, il y avait quelque chose de particulier dans cette élection qui offrait un nouveau mandat, le troisième en tant que président, à Recep Tayyip Erdogan.
Pour moi, ces élections, cette fois-ci, c'est un passage à un système d'autocratie élective. Je ne le définis pas comme un enjeu démocratique, parce que démocratie, quand même, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est les urnes, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. Dans la démocratie, il y a un système de liberté. Tout ça n'existe pas. On choisit un autocrate par les élections. Bien sûr, la socio-économie a joué un rôle important, mais dans ces territoires, c'est plutôt la division culturelle qui joue un rôle important, ethnique, religieux, souvent l'appartenance à une identité culturelle est beaucoup plus importante que les intérêts individuels. Par exemple, si la crise économique vous touche individuellement, oui, vous payez la dette, mais quand on vous demande votre décision finale, vous pensez plutôt à votre communauté, à vos valeurs. De nouveau, on a vu qu'en Turquie, il y a un grand axe de conflit entre les jeunes occidentalisés, séculaires, plus démocrates, et les conservateurs. Les conservateurs, ils donnent toujours une importance à leurs identités, et cette identité se définit à partir de contradictions avec l'Occident.
Pour imaginer ce que pourrait être l'avenir de la Turquie à court terme, j'avais également rappelé Berk Esen, cet enseignant de sciences politiques à l'université Sabancı d'Istanbul. On s'est retrouvés au même endroit que la dernière fois. Il avait le visage tiré par une nuit sans sommeil, passé à analyser les résultats.
C'est un résultat terrible, car je pense que les électeurs de l'opposition étaient vraiment persuadés de pouvoir cette fois battre cet autocrate populiste dans les urnes. Avec le contexte, le tremblement de terre, le fait que les partis d'opposition se sont tous rangés derrière un candidat commun, les chances du camp de l'opposition de l'emporter étaient assez élevées. C'est pourquoi de nombreuses personnes sont aujourd'hui démoralisées en regardant les résultats. Bien entendu, je suis également pessimiste, du moins pour l'avenir proche, notamment avec le Parlement. Comme de nombreux anciens membres de l'AKP ont été élus députés, ça va faire un énorme bloc qui va probablement remettre en question de nombreux acquis laïcs du régime républicain. Par exemple, la question des pensions alimentaires va probablement être remise en question. Les codes civiques laïcs seront ternis. Ils vont probablement légitimer le mariage des mineurs et faciliter la poursuite de cette pratique. Donc si on va par là, ce résultat est une catastrophe.
En janvier et février, lorsque le tremblement de terre s'est produit, beaucoup de gens l'ont dit fini et qui ne seraient pas en mesure de réussir cette fois-ci. Or, il a quand même réussi. Qu'est-ce que ça nous dit de lui ?
Je ne pensais pas que le tremblement de terre allait faire baisser le vote Erdogan de façon significative. Tout d'abord parce que le tremblement de terre a frappé des bastions de l'AKP. La plupart des électeurs qui y vivent sont donc déjà très pieux et ont un schéma de croyance assez traditionnel. Je pense que la plupart ont gobé le discours d'Erdogan et d'autres, selon lesquels le séisme était un acte de Dieu et que le gouvernement n'aurait rien pu faire face à une catastrophe de cette ampleur. On leur a aussi dit qu'à la suite du tremblement de terre, l'État a fait tout ce qui était en son pouvoir pour fournir de l'aide. Et bien entendu, le fait que l'État contrôle une grande partie des médias nationaux a donné du poids à ces arguments. Ils ont bombardé les électeurs avec cette propagande. Je pense aussi que les électeurs sunnites de la région se sont mobilisés contre Kemal Kılıçdaroğlu pour des raisons religieuses, étant donné que Kılıçdaroğlu est de confession alévi, et ça, c'était vraiment honteux. Mais je pense que l'autre raison est que le gouvernement a distribué les secours selon des lignes partisanes. Il a récupéré entre ses mains toute l'aide qui était envoyée à cette région et il s'est ensuite concentré sur les zones pro-AKP. Les habitants de ces bastions de l'AKP ont donc bénéficié de certains avantages, alors que les bastions de l'opposition, eux, ont été complètement marginalisés.
Je me suis souvenu qu'à quelques jours du premier tour, alors qu'il revenait de l'étranger, Berkesen avait été brièvement appréhendé à l'aéroport d'Istanbul, accusé d'avoir diffamé un officiel. Affaire renvoyée à un examen plus tardif, mais probablement, m'avait-on expliqué, une petite intimidation. Je voulais lui demander comment il envisageait le futur de son pays, maintenant que Recep Tayyip Erdogan avait remporté son pari électoral.
Je dirais que la Turquie est à la croisée des chemins. La direction que prendra le pays à partir de maintenant va être déterminée par une série d'évolutions politiques d'ici un an. Ce nouveau gouvernement va probablement tenter de transformer la société turque selon ses propres principes. Tout cela va jouer sur l'évolution économique et politique de la Turquie. L'économie turque ne se porte pas bien ces derniers temps, et je ne pense pas que ce gouvernement ait les moyens d'améliorer réellement la situation. Jusqu'à présent, il a essayé de gérer la pauvreté plutôt que de l'atténuer et de l'éliminer, et je pense que cette politique va se poursuivre.
When it comes to foreign policy, it also puts Turkey in this very weird position. The current international system creates dilemmas for.
En matière de politique étrangère, cela place également la Turquie dans une position très étrange. Le système international actuel crée des cas de conscience pour des pays comme la Turquie. Je ne pense pas que l'Union européenne soit prête à intégrer la Turquie. Je ne pense pas que dans les années qui viennent, la Turquie et l'UE partagent des intérêts communs à cause des problèmes en Méditerranée orientale, Chypre, les migrants. Et cela affaiblit évidemment la position de négociation des forces démocratiques dans ce pays. Et bien sûr, cela donne du champ aux forces nationalistes, réactionnaires et anti-occidentales pour agir. Je pense que l'Union européenne va en souffrir car la Turquie va créer une grande instabilité anti-occidentale en matière de politique étrangère. Car la Turquie a probablement intérêt à revenir à la table des négociations, mais en ayant une position de négociation plus forte. Même si Erdogan est peut-être dans une position affaiblie sur le plan économique, il possède certaines cartes politiques qu'il peut utiliser, notamment grâce à la position de la Turquie dans la guerre russo-ukrainienne, ou encore sur la question migratoire et la demande d'adhésion de la Suède à l'OTAN.
Who are those in Turkey who have the most to fear of the next 5 years? Qui c'est qui a le plus à craindre des cinq années qui viennent ici en Turquie?
I think the people who fear the most for the next 5 years will be the minority groups in this country.
Je pense que les personnes qui auront le plus peur au cours des 5 prochaines années seront les groupes minoritaires de ce pays. De toute évidence, les Kurdes, en particulier les Kurdes laïcs, sont victimes de graves répressions et de harcèlement de la part de ce gouvernement. Et puis bien sûr, les laïcs et les alévis. Le deuxième groupe est bien entendu la communauté LGBT. On parle d'un gouvernement islamiste qui utilise clairement ces questions culturelles et adopte un discours très anti-LGBT afin de mobiliser une base solide. Compte tenu de la crise économique actuelle et de la position affaiblie de l'AKP au sein du Parlement, je pense qu'Erdogan va s'appuyer sur des questions culturelles pour le moment, ce qui signifie que la communauté LGBT sera attaquée, ce qui est terrible.
La communauté LGBT, les laïcs, les Kurdes, pour beaucoup de partisans d'Erdogan, les ennemis de l'intérieur, en quelque sorte.
Que disait-il, Kılıçdaroğlu? Si vous voulez que Demirtaş soit élu, votez pour moi. Ce terroriste qui a tué 51 de nos frères kurdes à Diyarbakır, c'est lui, Demirtaş. En Turquie, où l'ordre et la loi règnent, on ne peut pas relâcher Demirtaş qui a causé la mort de 51 de nos frères kurdes. Sous notre pouvoir, la justice est la base de tout.
Ce grondement de la foule que vous entendez, ce sont deux mots, terribles. Pendez-le. Pendez-le. Ils sont adressés à Salahettin Demirtaş, le leader du HDP, le parti pro-kurde, emprisonné en 2016 dans le cadre des purges menées par Recep Tayyip Erdogan dans la foulée du coup d'état militaire qui avait failli le renverser. Demirtaş avait été officiellement accusé de soutien au terrorisme. Hué par la foule, donc, lors de cette nuit électorale, image impressionnante depuis le palais présidentiel d'Ankara, où le président turc s'est déplacé pour son discours de victoire. Des dizaines de milliers de drapeaux s'agitent au-dessus de la foule. Sur scène, Recep Tayyip Erdogan, comme indifférent, laisse hurler ses partisans sans les interrompre. Évidemment, j'avais ça à l'esprit lorsque je suis allé retrouver dans une petite rue de Kadıköy Mesut Eyen, un sociologue qui travaille sur le nationalisme et la question kurde. Kurde, il l'est lui-même comme 20% de la population turque. 15 à 20 millions de personnes qui se sentent ostracisées, perçues comme une éternelle menace pour l'unité de la nation.
Although I said I'm kind of privileged this and that, of course I'm still a Kurd and
je dis souvent que même si je ne suis pas le plus représentatif, je suis kurde, toujours. Dans cette mesure, je peux dire qu'en tant que kurde, j'ai l'impression que mon identité n'est pas reconnue dans ce pays. Comme si mon identité était secondaire, comme si mon identité représentait une menace. En fait, vous avez le droit d'exister. Vous êtes autorisé à vivre dans ce pays. Vous êtes autorisé à bénéficier des droits de citoyenneté fondamentaux, à condition de renoncer quelque part à votre kurdicité. Les Kurdes n'ont pas le droit d'enseigner dans leur propre langue. Ils n'ont pas le droit de se gouverner eux-mêmes. Ce sont leurs revendications de base, vous savez. Et depuis la fondation de la République, on leur dénie leurs droits fondamentaux. Ils se battent depuis des lustres pour les obtenir. Cette lutte, elle prend plusieurs formes qui vont de la lutte armée au combat politique légal.
Là, petit rappel. Le combat politique des Kurdes, c'est bien sûr celui mené par le HDP. La lutte armée, c'est celle des combattants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, dont le leader, Abdullah Öcalan, après avoir été condamné à mort en 1999, purge une peine de prison à vie dans l'île d'Imrali. Öcalan, avec lequel pourtant Recep Tayyip Erdogan avait amorcé en 2009 un début de dialogue, devenant le premier dirigeant turc à amorcer une ouverture envers les Kurdes. Un coup stratégique, destiné à l'époque à élargir sa base électorale au moment où ses soutiens libéraux commençaient à faiblir, m'a expliqué Mesut Eyen.
Between 2009 and 2015, although there were ups and downs throughout the process, okay?
Entre 2009 et 2015, bien qu'il y ait eu des hauts et des bas tout au long du processus, ce qui a été mis en œuvre était énorme, vraiment extraordinaire, parce que pendant 80 ans, depuis la fondation de la République, le gouvernement a constamment nié l'existence de la question kurde ou refusé de reconnaître les droits fondamentaux des Kurdes. Et voilà qu'en 2009, Erdogan reconnaît d'un coup, ouvertement, qu'il y a une question kurde en Turquie et que certains droits fondamentaux des Kurdes doivent être reconnus. Et dans la foulée, il annonce qu'il donne le feu vert aux services de renseignement pour négocier avec les groupes armés. Et ça, c'était encore une fois d'une nouveauté remarquable. Oui, vraiment, ce qu'il a fait à ce moment-là était extraordinaire. Et bien sûr, sur cette base, les Kurdes de l'époque étaient très enthousiastes. Vous imaginez, ils étaient pleins d'espoir.
Ce qui a fait changer les choses, c'est la guerre en Syrie.
C'est certainement la principale raison. Erdogan s'est rendu compte que le cessez-le-feu allait finalement profiter au PKK en Syrie. Il n'y avait plus d'affrontements avec les forces de sécurité turques. Et à ce moment-là, c'est grâce à cela que le PKK a pu consacrer une grande partie de son énergie à la guerre civile en Syrie. Et là, vous savez, tout d'un coup, le PKK est devenu une force énorme qui est devenue une alliée des États-Unis en remportant des vrais succès contre Daesh. Et c'est comme ça qu'en 2015, Erdogan s'est rendu compte que le PKK en Syrie et le HDP en Turquie étaient tous les deux devenus plus forts qu'avant.
Plus forts et donc plus dangereux. Ces dernières années, les Kurdes ont été progressivement associés dans les discours publics au terrorisme. Et je voulais savoir à quel point c'était le cas.
Eh bien, il est presque certain que la majorité des Turcs pensent que les Kurdes constituent une menace. Je ne peux pas dire qu'ils prennent tous les Kurdes pour des terroristes, mais ils considèrent clairement le PKK comme une organisation terroriste. Je pense qu'ils sont prêts à accepter l'idée que si l'on accordait aux Kurdes des droits fondamentaux, tels que le droit à l'éducation en kurde, cela augmenterait en quelque sorte leur force et pourrait mener à la partition du pays, que cela entraînerait d'énormes problèmes en Turquie. Je pense que c'est entre autres pour ça qu'Erdogan a remporté un tel succès lors des dernières élections. Car bien qu'il n'y ait pas eu de combat avec le PKK au cours des 5 dernières années, qu'il n'y ait pas eu de problème de violence, il a convaincu une partie suffisante de l'opinion publique que les Kurdes pourraient toujours créer un problème qui pourrait mener, comme je l'ai dit, à la partition.
Les Kurdes, aujourd'hui, ou plus précisément leur représentation politique et militaire, sont en première ligne de ces ennemis de l'intérieur que Recep Tayyip Erdogan exhorte à combattre.
Et encore les portraits géants là, de Erdogan, là, regardez.
Oui, parce qu'il
y a marqué
ici,
quoi
le...
Doglu Zaman
Doğru Adam. Et G avec le chapeau, tu vois.
Le G avec le chapeau, c'est Doğru Zaman Doğru Adam.
Doğru Zaman Doğru Adam. Le juste homme au juste temps. Comment tu dirais en français?
Ah, le bonhomme au bon moment.
Ben voilà.
Avec le portrait d'Erdogan.
Mais ça couvre cet aspect sérieux, n'est-ce pas? L'homme, c'est aussi...
L'homme de la situation.
Homme.
L'homme de la situation.
Un homme, un vrai.
Şimdi öyle bir haykıralım ki Ankara bunu duysun.
Çocuklar, faites en sorte qu'on nous entende jusqu'à Ankara. Faites en sorte qu'on nous entende dans tous les quartiers d'Istanbul. Mes frères, est-ce que le parti CHP, ce sont des LGBT? Est-ce que le HDP, ce sont des LGBT? Est-ce que le parti AKP peut être infiltré par les LGBT? Est-ce que le MHP peut être infiltré? Rappelez-vous, nous renaissons, nous nous régénérons à chaque élection.
On arrive dans ce petit bar près de taxi.
Ici est donc
Tu crois que c'est là?
Oui.
Allez, on rentre.
C'est à Kadıköy, un des quartiers branchés d'Istanbul, que m'avait donné rendez-vous Olcan, 28 ans, un militant de la communauté LGBT. Il était assis à une table devant un milkshake à la fraise. Petite barbe, piercing, puis la capuche.
So I can read on your t-shirt. Je vois sur votre pull, brave, confident and proud, courageux, confiant et fier, avec le drapeau arc-en-ciel. Est-ce que c'est l'état d'esprit de la communauté LGBTQA en Turquie aujourd'hui?
Je voudrais que tous les membres de la communauté LGBT en Turquie se sentent comme ça. C'est pour ça qu'on se bat.
Olcan m'a raconté qu'il venait d'İzmit, une ville plutôt libérale où faire son coming out n'avait pas été un problème. Le ressentiment et la haine contre la communauté LGBT, il les a sentis plus tard, lorsque Recep Tayyip Erdogan a commencé à la prendre ouvertement pour cible en la désignant comme ennemi des valeurs essentielles du pays.
Les pays qui se développent, comme la Turquie, poursuivent des politiques qui visent en même temps à augmenter leur population, tout en faisant baisser le coût de la main-d'œuvre. Ils y arrivent en criminalisant tous ceux qui ne cherchent pas à avoir des fonctions reproductives. Et ils endoctrinent les gens. Ils veulent des gens obéissants, gros travailleurs. Et la reproduction est considérée comme une des fonctions les plus sacrées de la vie humaine. C'est ce qu'on voit en Turquie aujourd'hui. Ils construisent en fait l'identité nationale turque sur une opposition à l'identité LGBT.
La Turquie est le seul pays à majorité musulmane où l'homosexualité n'est pas illégale. Si à Istanbul, des couples s'affichent dans certains quartiers, les actes homophobes ne cessent d'augmenter depuis que le discours de haine s'est banalisé dans les déclarations officielles. Les représentants de l'État, ministres ou Recep Tayyip Erdogan lui-même traitent la communauté LGBT de vandales, détraqués, contaminés par les déviances occidentales. Dans les campagnes, l'homophobie est violente. Le sentiment d'impunité prévaut.
Özetle demek istediğim bundan 14 yıl öncekiyle şu ankinin en büyük farkı bundan 14 yıl önce sadece
Ce qu'on pourrait dire, c'est que la différence avec, disons, il y a 40 ans, c'est qu'à l'époque, l'homophobie était sociétale. Aujourd'hui, elle est politique. L'homophobie politique est bien plus dangereuse. Et je ne le prends pas du tout à la légère.
What does Recep Tayyip Erdogan say about LGBT? Qu'est-ce qu'il dit, Erdogan, de tout ça?
Bütün LGBT artı karşıtı
Il dit principalement que faire partie de cette communauté, c'est un virus qui se dissémine et contamine la société. Imaginez. Il veut faire comprendre que cette sexualité, qui n'a pas de but reproductif, est quelque chose qui va bousiller la population, détruire la nation. En même temps, il place la famille, en opposition à la communauté LGBT, comme étant le cœur de la nation
turque.
Prendre des boucs émissaires, proie consensuelle, à lâcher à la vindicte commune de l'électorat islamo-conservateur comme de l'électorat ultranationaliste. Polariser la société. La main de fer que Recep Tayyip Erdogan a resserrée sur la Turquie depuis la répression des manifestations de Gezi il y a pile 10 ans a aussi frappé de plein fouet les intellectuels, les écrivains, le corps enseignant, les universitaires. Des universités vues par le président turc comme des bouillons de culture contestataire qu'il a voulu mettre au pas en imposant directement son choix de directeur des universités ou en nommant les professeurs. À l'université de Boisice, l'université du Bosphore, une des plus prestigieuses du pays, cela fait plus de 600 jours, sans interruption, qu'à la mi-journée, les enseignants organisent une manifestation pas comme les autres, devant les bureaux de l'administration.
Et là, les professeurs s'applaudissent et puis les étudiants autour qui se sont rapprochés les applaudissent aussi.
Un peu plus tard, dans un café non loin de l'université, j'ai retrouvé Andesart, une prof de psychologie de Boisice, une de celles qui, sur la pelouse, sans dire un mot, manifestait. Et je lui ai demandé de m'expliquer comment Recep Tayyip Erdogan tentait de restreindre la liberté d'enseignement.
For example, I should be free to select the research area that I want to work with.
Par exemple, je dois avoir la liberté de choisir le domaine de recherche dans lequel je souhaite travailler, plutôt que subir la censure selon le sujet. Autre chose, la liberté universitaire, c'est aussi son autonomie. Les membres du corps enseignant doivent être choisis au mérite. Quand nous ouvrons un poste, ça doit être collégial. Il faut suivre un processus. Vous postulez à un emploi, eh bien, vous faites des entretiens, on regarde vos publications, on prend la parole devant les membres du corps professoral. Eh bien ça n'a plus lieu. Nous avons donc 3 membres du corps professoral qui ont été nommés par le bureau du directeur en ce moment, des parachutés. Nous constatons donc aujourd'hui les dégâts de cette politique. Par exemple, nous avions un bureau chargé de la prévention des abus du harcèlement sexuel. Il a été fermé. Comme son nom l'indique, l'université, c'est un lieu universel, c'est un forum, une agora où s'exerce la pensée critique, la liberté d'expression. Et ça commence dans le domaine de la recherche. Regardez, on interdit à certains profs de participer à des colloques. Voilà ce qui est en train d'arriver. Certains sont virés. Vous avez vu, nous en avons eu encore un exemple aujourd'hui. Une de nos professeurs émérites, on lui a refusé l'accès au campus. Elle n'a pas pu participer à la manifestation silencieuse, interdite, sans raison officielle. Et ce sont des gens qui travaillaient ici depuis des années.
So I think Boğaziçi University is the one of the best universities in Turkey, and it's a public university.
L'université du Bosphore, c'est une des meilleures universités de Turquie, et c'est une université publique. Et même si nous sommes des employés de l'État, nous résistons parce que c'est trop important. Et il ne s'agit pas que de nous, mais il faut le faire pour nos étudiants. Car l'université, c'est l'endroit où ils peuvent réellement exercer leur sens critique, sans aucune sorte de formatage, de façon constructive. Ce sont les jeunes générations à venir. Ils sont à l'âge émergent, pas encore des adultes et plus tout à fait des adolescents. C'est donc là qu'ils peuvent tester leurs pensées. Ça se joue jusque dans nos salles de cours. Comment pouvez-vous enseigner quand quelqu'un vous surveille et que vous avez l'impression que Big Brother vous regarde? Comment vont les étudiants? Vous l'avez dit, ce sont des adolescents. Ont-ils conscience qu'ils risquent de perdre leur liberté d'expression? Ont-ils pris l'habitude de restreindre leur propre liberté d'expression, d'ailleurs? Le truc, c'est qu'ils ne savent pas comment c'était il y a 20 ans. Eux, ils ont connu le coup d'État, le mouvement de Gezi. Ce qui est triste, ce que j'observe chez mes étudiants, c'est qu'ils cherchent à partir étudier à l'étranger. Moi, j'ai été tellement heureuse d'étudier ici, à l'Université du Bosphore. Est-ce que vous craignez que les choses s'aggravent ou est-ce que c'est finalement juste une pression? En Turquie, chaque jour est un nouveau jour. Chaque matin, je me dis que tout peut arriver. On peut se dire que ce sera mieux. Bien sûr, nous prions pour que ce soit pour le mieux. Mais moi, en tant que personne, mon état d'esprit, je me dis qu'il va falloir faire face au pire.
En nous saluant, Andessart avait un sourire bravache sur le visage. Une forme de détermination, renforcé ce jour-là par la sidération d'avoir vu une de leurs collègues se faire fermement interdire l'entrée de l'établissement par les gardes de sécurité, avec ces simples mots, sans autre forme de procès. Vous ne faites plus partie du corps enseignant. En reprenant l'avion pour Paris, je repensais à cette hémorragie de cerveau que redoutait Andessart, alors que des milliers de jeunes diplômés turcs quittent le pays, fuyant la chape de plomb, l'inflation vertigineuse, privant la Turquie de ses forces vives. C'était le politologue Ahmet İnsel qui m'avait expliqué que Recep Tayyip Erdoğan était un joueur de taula, le backgammon, le jeu national en Turquie. La taola, où contrairement aux échecs où on prévoit des coups à l'avance, ce sont les dés que l'on lance et des situations auxquelles il faut s'adapter.
Maintenant, Tayyip Erdoğan est devenu beaucoup plus dépendant d'une alliance d'extrême droite, religieuse et nationaliste. Et là, c'est un facteur qu'on doit prendre en considération pour les années à venir. On peut s'attendre à ce que Tayyip Erdoğan ait une politique beaucoup plus radicale en le sens à la fois du nationalisme ethnique anti-kurde et du nationalisme religieux sunnite vis-à-vis des Alevis ou peut-être aussi vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis des secteurs de la Turquie qu'il considère comme des ennemis intérieurs. Les sympathisants du parti HDP, du Parti démocratique des peuples, parce qu'ils sont supposés être des marionnettes du PKK, pro-kurdes, une partie des Alevis qui ont soutenu Kılıçdaroğlu massivement, ceux qui demandent l'attachement occidental de la société turque, les libéraux, la gauche, les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des droits des femmes, les défenseurs des droits à la liberté de définition du genre, tout ce qui est LGBT, etc., seront vus comme des ennemis intérieurs. Nous sommes pris en tenaille entre les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs et la dynamique principale injectée par Tayyip Erdoğan pour consolider son électorat. C'est un peu la recette classique du fascisme.
Et à ce moment de la conversation, j'ai voulu demander à Ahmet İnsel ce qu'il fallait craindre pour la suite.
Ce régime peut devenir de plus en plus répressif. Et je crois que ce qui nous attend, ce n'est pas encore plus renforcement de mainmise de parti-État sur les institutions, ils l'ont déjà, ils ont à peu près arrivé à l'heure. C'est la domination culturelle. D'ailleurs, ils le disent ouvertement. Nous avons réussi à contrôler les appareils d'État, nous avons réussi à mettre en place un nouveau système de gouvernement, etc. Nous n'avons pas réussi, en revanche, à obtenir le pouvoir culturel. Donc probablement, là, ce qui va arriver, c'est des initiatives qui vont dans le sens d'un établissement d'un pouvoir culturel ça peut aller de l'éducation. Bon, ils ont déjà commencé avec l'université, donc ce qui se passe à l'université de Boazici est la quintessence de cette recherche, mais aussi peut-être dans d'autres secteurs culturels, théâtre, édition, revues, manifestations culturelles, qui ont déjà commencé pas mal à interdire des manifestations musicales ailleurs.
On a vu pendant ces 20-30 années même de montée au pouvoir de Erdogan, sa capacité à être un caméléon, à s'adapter aux circonstances, à être ce joueur de tavola, de backgammon dont vous parliez. Aujourd'hui, le visage de la Turquie, de Erdogan, c'est une composition politique qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Hein.
Oui, tout à fait. Il y a effectivement, au niveau international, un moment d'anti-occidentalisme montante que Tayyip Erdogan partage cet esprit du temps et il retrouve beaucoup de échos parmi ses électeurs. Si vous voulez, les ressorts de Tayyip Erdogan sur le nationalisme religieux, on le retrouve à des degrés différents avec des religions différentes dans plusieurs autres pays. En Inde, avec Modi, en Hongrie, avec Orban, avec les supporters de Bolsonaro au Brésil, les évangélistes, ou de Trump aux États-Unis. Et on le retrouve presque de la même manière avec Poutine. Donc il y a un nationalisme religieux dont
en Israël Erdogan, aussi.
Et j'allais dire en Israël, avec on a le gouvernement le plus à droite avec les partis ultra-religieux qui sont au pouvoir. On retrouve cette montée du nationalisme religieux comme un fervent identitaire alimenté par la peur de perdre l'identité dominante du pays.
L'islam et la nation de l'islam. La tentation d'un empire culturel, religieux, un empire d'influence, un empire de marché. Erdogan, le sultan caméléon, aborde son troisième mandat présidentiel plus que jamais endurci par ces 3 mois incertains où il a senti son trône se dérober. L'incroyable animal politique a su rebondir, faire feu de tout bois et surtout sentir comme personne d'autre son pays, ses aspirations. Réussissant son pari d'être là pour faire entrer la Turquie dans un nouveau siècle, 100 ans après la fondation de la République par Atatürk, ce père de la nation dont il veut effacer et surpasser le souvenir dans le cœur des Turcs. C'était Erdogan, la tentation de l'Empire. Épisode 6, le troisième sacre. Prise de son, Paola Collin et Jérémy Tuil. Réalisation, Fabrice Lègle. Mixage, Benjamin Orgeret. Erdogan, la tentation de l'Empire est un podcast original de France Inter, en collaboration avec la rédaction internationale de Radio France.